J'en doute.
Tu as le droit de faire un petit bénéfice.
Bénéfice du doute.
Si on travaille pour gagner sa vie, pourquoi se tuer au travail?
Tu ne penses pas que tu es l'âge de fonder un foyer, d'avoir des enfants?
Je sors de prison, mais j'ai payé ma dette à la société et j'ai pas honte de le dire!
Je suis là pour te montrer le droit chemin.
Bénéfice du doute.
Bénéfice. Alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent.
Au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Dis-donc pas encore crever, ma vieille canarde!
Bénéfice du doute.
Alors? Alors, y a-t-il un autre moyen que celui que j'envisage?
Bonjour à tous, vous écoutez le Bénéfice du doute sur Radio Campus, Kevin Sparks au micro. Le Bénéfice du doute, c'est le magazine des étudiants en journalisme de l'ULB. C'est aussi votre nouveau rendez-vous du mardi matin. Chaque semaine, on se rend en direct de 10 à 11h sur Radio Campus. On travaille, on fait des enfants, on vote, on vieillit, on finit dans un home comme nos parents avant nous et les enfants après. Mais est-ce qu'on se pose souvent des questions par rapport à ce style de vie? Eh bien, notre émission a justement pour objectif de relever ces faits de société, des faits que l'on remet peu ou même jamais en question. 6 semaines, 6 émissions et donc 6 thèmes très différents. À chaque émission, on essaiera de présenter le modèle de société qu'on a l'habitude de suivre pour ensuite mettre en évidence des alternatives à ce modèle. À travers cette émission, on s'engage donc à explorer des voies nouvelles, des voies auxquelles on n'est pas souvent confronté. Le but n'est pas nécessairement de déconstruire le modèle en vigueur. On veut surtout s'interroger sur la manière dont on voit ces modèles. On accordera donc le bénéfice du doute à chaque modèle présenté, ainsi qu'à son alternative.
Pourquoi on met Poppy dans un home ?
Aujourd'hui, on parlera du vieillissement. Quel regard porter sur la vieillesse ? Pourquoi avons-nous tendance à exclure les personnes âgées de notre champ de vision ? Et est-ce que la vieillesse est seulement synonyme d'un déclin ? Voilà plusieurs questions auxquelles l'équipe du Bénéfice du doute va tenter de répondre durant cette prochaine heure. Au sommaire aujourd'hui, Anémone Hubo nous présentera différentes associations qui proposent des activités pour seniors. On ira ensuite faire un petit tour dans une colocation de personnes âgées avec Alexandre Liégeois. Et en fin d'émission, Lisa Delmoitié partira à la rencontre d'une famille qui a rénové sa maison pour accueillir sa grand-mère. Pour en discuter avec nous, on accueille Colette Maskens, thérapeute en analyse bioénergétique, dans le livre « Vieillir, un temps qui s'apprivoise » est sorti en mai dernier. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et Grégoire Carlier, ergothérapeute qui travaille maintenant dans le service gériatrie à l'hôpital Erasme. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci à tous les deux d'être là. Pour comprendre les pratiques de notre société, il est nécessaire de remonter un peu dans le temps. On va donc commencer par un petit tour dans le passé avec Lisa Delmoitié.
De mon temps, disait grand-père, moi je n'aurais jamais...
Dans cette émission, on s'interroge sur la manière dont la société traite les personnes âgées. Et pour mieux comprendre cela, Lisa, vous vous êtes intéressée à la façon dont notre société voit la vieillesse.
Oui, et cette vision aujourd'hui, elle est alarmiste. Quand on parle des personnes âgées, on parle de maladies, de vieillissement de la population, du coût pour la société. Enfin bref, rien de très valorisant. Mais ailleurs dans le monde, et surtout à d'autres époques dans l'histoire, un aîné, c'est avant tout une personne qui est riche en savoir, et puis surtout qui est prête à transmettre son expérience.
Mais alors, historiquement, comment est-ce que l'on peut expliquer ce changement de regard sur la personne âgée ?
Il y a plusieurs raisons et elles sont diverses, mais une des étapes déterminantes, c'est le passage de l'oral à l'écrit. Alors pour mieux comprendre, nous avons demandé plus d'informations à Dominique Joly, qui est la coordinatrice de projet au Centre de diffusion de la culture sanitaire à l'ULB.
Évidemment, dans les cultures orales, la phrase classique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, avait un sens, mais bon, quand on est dans une logique où ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde ait accès à l'écriture et à la connaissance, forcément, l'aîné perd un peu de son aura par rapport à ça aussi.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que, depuis le passage à l'écrit, les personnes âgées ne sont plus nécessairement valorisées ?
Non, bien sûr. Tout au long de l'histoire, on retrouve des périodes où les aînés sont particulièrement mis en valeur, et ces périodes, elles sont diverses. Mais bon, de manière générale, il vaut mieux ne pas être âgé en temps de crise.
Il y a des vieux qui ont été dans des périodes où la gérontocratie avait pignon sur rue, je vais dire, et ceux-là, ben, disons qu'ils en ont bien profité. Et puis d'autres époques où tout d'un coup, ils sont plus nombreux. On est en période de guerre et donc ce qui est valorisé, c'est la force, même sans comparer à l'âge, mais bon, la force par rapport à la faiblesse. Et donc, on se retrouve dans une situation où la jeunesse est mise en avant et donc est plus favorable. Bon, ça, c'est de manière générale. Donc, il y a vraiment une espèce de sinusoïde par rapport à ça, je pense.
Mais donc, si l'histoire du regard de la société sur la vieillesse est un cycle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les personnes âgées, elles sont de plus en plus nombreuses. Au 1er janvier 2014, la proportion des personnes de plus de 65 ans était de près de 20%. Elle devrait atteindre les 26% en 2050. Mais dans un même temps, et c'est paradoxal, c'est la jeunesse qui est mise en avant. Évidemment, ça entraîne une pression sur les personnes âgées.
À la fois, vous avez un devoir de vieillir, de bien vieillir, de réussir votre vieillissement, ce qui veut dire individuellement, éventuellement, de ne pas vieillir, ou en tous les cas de vieillir en meilleure forme possible. Mais bon, à la fois, c'est un bien-être pour soi, mais c'est aussi un message, ne nous coûtez pas trop cher trop vite, donc vous êtes tenu de vous porter bien. Quand vous êtes grands-parents, on n'a pas les moyens d'avoir des crèches pour tout le monde, vous avez une mission. C'est la même chose pour le volontariat.
Nos aînés sont donc beaucoup sollicités et aujourd'hui on perd parfois de vue que ce sont avant tout des adultes responsables. À eux seuls donc de choisir comment vivre sereinement leur vieillesse.
Merci beaucoup Lisa, on vous retrouvera plus tard dans l'émission. Pour vivre sereinement leur vieillesse, certains décident de rester actifs. Il existe d'ailleurs plusieurs associations pour permettre cela. Anémone est partie à la rencontre de trois d'entre elles.
Je lâche le ballon, il rebondit au sol et je rattrape avec mes pieds. On lâche, hop, et on rattrape avec ses pieds. Pas facile. On essaye. Lâchez le ballon. Ouais, parfait.
Dans cette résidence-service, c'est l'heure du cours de gym. Les participants ont tous plus de 85 ans, mais effectuent les exercices avec entrain. Adélie Jonquer, animatrice chez Gym Sana.
On essaye de faire en sorte d'avoir des groupes le plus homogène possible pour que tout le monde puisse faire tous les exercices de manière correcte. Et puis notre but, c'est aussi que les personnes ne soient pas en situation d'échec. Donc ils doivent normalement pouvoir faire tous les exercices qu'on leur donne de manière à leur donner une satisfaction aussi d'eux-mêmes et qu'ils puissent voir, je suis encore faire ça, qu'ils soient encore contents d'eux.
Albert, 91 ans, vient toutes les semaines. Et à la fin de la séance, il est effectivement heureux, mais fatigué.
Oh, je viens parce que j'ai envie d'avoir mal à mes épaules après, pendant toute la semaine. Et sinon, ça me fait du bien, ça me dérouille un petit peu.
Mais la gym n'est pas la seule activité à pouvoir stimuler les capacités motrices, sociales et cognitives des seniors. Certaines associations proposent en effet des ateliers créatifs ou culturels. C'est le cas d'Atoll, un service d'accueil pour personnes âgées bruxellois. Morgane Verbist, animatrice.
On accueille plus ou moins 15 personnes par jour. Ces personnes à partir de 60 ans, qui sont encore à domicile, mais ils se sentent un peu seules parce que la famille travaille. Et donc on propose toutes sortes d'activités en se basant sur leurs ressources, sur leurs envies, sur leurs besoins. Dans la société, on considère que la personne âgée l'est à partir de 60-65 ans. Or, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Donc entre 60 ans et un centenaire, il y a quand même une période de 40 ans où la personne doit rester active le plus longtemps possible, prendre sa place dans la société ou la reprendre.
Et c'est justement ce que vise l'association Belgian Senior Consultants. Elle propose aux retraités d'accomplir des missions de conseil de façon bénévole. Il y a une quinzaine d'années, Jean Saint-Aubin a sauté le pas.
Le loisir, c'est bien pendant un mois, mais après un mois, on trouve ça peu intéressant finalement. Le but, c'est de rendre service à la société et de se faire plaisir à soi-même en demeurant dans un milieu socio-économique.
Garder des relations, rester actif et se faire plaisir, tels sont donc les maîtres mots de ces associations pour vivre pleinement sa vieillesse et non la subir.
Oui. Des pois, des pommes, une banane, un potiron,
un gros potiron.
Et des raisins.
Des raisins.
Oh là là, et moi je vais au marché, j'achète des framboises dans un petit ravier. Ouais. Kiwi, des poires, des pommes, ouais. Une banane. Ouais. Oh là, un potiron. Et là, j'ai oublié le dernier.
Qu'est-ce qu'elle a acheté ?
Des raisins. Et moi des groseilles.
Si vous êtes intéressé par ces activités, vous pouvez trouver toutes les informations pratiques sur notre site www.bénéficesdudoute.ulb.be. Alors Anémone, vous êtes avec nous et on l'a entendu dans ce reportage, l'activité est d'une importance clé pour garder la forme.
Oui, en effet, tous les seniors m'ont parlé de la nécessité de trouver des activités après la retraite et aussi de se sentir utile. Alors Madame Maskens, vous qui avez 78 ans, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, là je suis entièrement d'accord. Et je rajouterais avoir absolument conscience d'un sens qu'a notre vie à cette période de vie. Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Pour moi, c'est majeur. Je n'ai pas été bien tant après avoir arrêté de travailler, tant que je n'ai pas compris profondément le sens de ma vie.
Et qu'est-ce que vous faites alors aujourd'hui?
Ah, si on parle du sens de la vie, c'est terrible. Donc, j'ai trouvé ce sens en étant à un enterrement et en ayant écouté les hommages de petits-enfants par rapport à leur grand-père. J'étais tellement étonnée que j'ai demandé après à mon ami qui venait de perdre son père, mais est-ce qu'il le voyait souvent? Et il m'a répondu non, non. Et alors, je me suis dit, mais quoi, comment? Il m'a répondu, mais quand il le voyait bien. Et ils aimaient bien leur grand-père pour ça. Et je me suis dit, au fond, alors, il faut qu'on soit là, être là. Et j'ai pensé, mais c'est vrai, mes parents étaient là, je m'en occupais un peu, mais pas tellement. Mais je savais qu'ils étaient là. Et ce être-là est très engageant. Parce que je ne peux pas être que là, il faut que je sois bien là. Et pour être bien là, il faut que je m'occupe bien de moi. Donc, faire des choses qui me maintient physiquement au mieux possible de ce corps qui me lâche et aller bien dans mon cœur et dans mon être pour être bien là quand ils viennent me parler, savoir les écouter, être avec eux, partager leurs inquiétudes. Voilà, je vais dire ça.
Et vous parlez d'un corps qui lâche. Dans votre livre, vous décrivez votre sentiment d'impuissance durant le vieillissement. Comment est-ce que, selon vous, on peut rester actif face à un corps vieillissant, un corps qui lâche?
Voilà. Ce sentiment d'impuissance, c'est au moment où j'ai rencontré pour la première fois. J'étais en pleine occupation et mon corps n'a pas suivi. Il n'a pas fait ce que je lui demandais. Donc j'ai pris conscience que mon corps suivait sans que je n'en aie une profonde conscience, justement. Et puis là, il ne suivait pas. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai dû lutter contre un sentiment d'impuissance et accepter que je pouvais bien vivre avec ce que mon corps refusait de faire. Et donc j'ai shifté, comme on dit maintenant. Je suis passée d'activités que je pouvais faire, que je ne pouvais plus faire à des activités que je pouvais faire. Et j'ai cherché cela.
Et, Monsieur Carlier, vous avez une assez longue expérience déjà dans les maisons de repos. Vous avez travaillé pendant 7 ans dans les maisons de repos en Belgique. Est-ce que vous avez pu constater une différence entre les personnes âgées qui poursuivent des activités et ceux qui sont contraintes de rester inactives?
Oui, certainement. D'ailleurs, finalement, l'essence un petit peu de la gériatrie, c'est de donner une qualité à l'âge et pas seulement de prolonger la vie. Et donc, pour ce faire, on a beaucoup étudié les centenaires et quelles étaient finalement leurs recettes. Et finalement, ça tient en trois grands piliers. Et donc, c'était un peu ce que madame a expliqué. Mais donc, le premier pilier, c'est qu'il faut maintenir une activité physique. Et ça ne veut pas simplement dire faire ses courses et promener son petit chien, mais c'est quand même réellement maintenir à peu près une demi-heure d'activité physique par jour. Le deuxième grand pilier, c'est qu'il faut conserver une bonne alimentation, donc des bons apports caloriques. Et le troisième pilier repose, et ça rejoint plus le témoignage, sur, si vous voulez, encore des rapports sociaux, mais plutôt orientés vers encore un sentiment d'utilité. C'est-à-dire se sentir encore bien, se sentir valorisé dans notre société. Et voilà quels sont les trois secrets de jouvence, si vous voulez, pour un bon vieillissement.
Mais pour reprendre ce que Colette disait tout à l'heure, face à un corps qui lâche, quelles sont les solutions pour quand même rester un peu actif?
Mais donc, tout est une question d'adapter sa performance. Donc, il y a des bons modèles théoriques qui expliquent ça, notamment le modèle SOC. Et en fait, l'exemple ici qui peut être illustré, c'est notamment le pianiste Rubinstein, qui jouait encore des concertos à un âge assez avancé, à 90 ans, et qui avait encore un public, qui était extrêmement défenseur de sa cause. Et puis, en fait, comment est-ce qu'il fait? Et donc, il a expliqué ça en trois phases. Il dit, d'abord, j'ai réduit le nombre de morceaux que je joue par jour de mes partitions. Il jouait essentiellement du Chopin, et au lieu de jouer toutes les partitions de Chopin, il jouait quatre morceaux de Chopin. Et donc, quelque part, il a réduit ses partitions. Et le deuxième principe, c'est qu'il s'est dit, comme je vais jouer, que quatre partitions, je m'entraîne toujours 4 heures par jour. Bah, finalement, je travaille 4 heures par jour sur ces partitions, au lieu de travailler sur l'ensemble des partitions. Et puis quand même, il avait quand même encore son troisième secret, c'est qu'il avait quand même des faiblesses articulaires au niveau des doigts. Et en fait, il s'est dit, je vais jouer, c'est un stratagème, si vous voulez, il s'est dit, je vais jouer plus lentement les morceaux, et comme ça, quand le morceau s'accélère, je vais quand même accélérer, les gens vont percevoir mon accélération. Et donc ceci illustre bien finalement la façon dont on peut s'adapter à une situation, et c'est probablement ça dans lequel les personnes âgées sont vouées à faire.
D'accord, merci beaucoup. On vous retrouvera tous les deux un peu plus tard. On vient d'aborder la question de rester actif, mais une autre question essentielle est de savoir si les personnes âgées peuvent rester vivre chez elles. Aujourd'hui, en Belgique, on incite les personnes âgées à rester à la maison. Il y a donc de plus en plus d'offres de soins à domicile. Mais lorsqu'il n'est plus possible de rester vivre chez soi, il existe aussi plusieurs options. Alors, il y a d'abord la maison de repos classique, qui est de moins en moins nombreuse. À côté de ça, on retrouve les maisons de soins qui offrent une assistance médicale. Mais on a aussi vu apparaître ces dernières années des nouvelles initiatives, comme l'habitat groupé. Il s'agit d'une maison autogérée par ses habitants, qui permet d'allier vie collective et privative. Notre journaliste Alexandre Liégeois est allé découvrir pendant 2 jours un de ses habitats, la résidence Abbé Find à Etterbeek.
Le coin ici, et alors ça c'est la chambre, donc c'est exactement les mêmes dimensions, hein. Il y a en tout, il y a 40 mètres carrés, donc un coin cuisine, et de l'autre côté il y a une partie de la pièce qui est prise par la salle de bain, où il y a une douche, le lavabo, toilette, et voilà. En principe, dans les maisons à Bayfield, les gens ont leur indépendance, leur petit appartement où ils sont chez eux. Et puis, il y a une partie commune. Alors voilà, ça, c'est les communs. Donc, la cuisine, grande cuisine. Et alors ici, côté salon. Et le plus important de tout, c'est le jardin. Ça, il faut venir au printemps, c'est plus joli.
Oui? Non. Ah oui, avant oui. Mais maintenant je suis déjà avec le garçon. Comment? Il va venir chez toi, il viendra chez toi après. Ça va? À tout à l'heure. Je m'excuse. Je suis ici depuis 10 ans. Je suis membre fondateur, et je suis administrateur et trésorier. Donc j'ai pas mal de choses. Alors, j'ai toujours été utile pendant toute ma vie. Et maintenant, j'ai ma retraite, j'ai deux retraites, mais je ne veux pas être un assisté. Donc je fais mon job, je suis trésorier, je fais ça bénévolement. Mais à partir du moment où vous vieillissez, si vous n'avez plus rien à faire, plus rien à dire, plus rien à expliquer, vous vous sentez vraiment à part. Hein? Vous êtes vraiment un truc inutile, hein? Quelque chose d'inutile. Hein? Comme un bébé ou comme un truc comme ça. Encore le bébé, il fait plaisir aux gens. Mais je veux dire que c'est une situation qui n'est pas très, très, très nette. Je vais être patient. Ah oui, voilà. Moi, je dois toujours avoir du bruit autour de moi. Moi, j'aime, ça, il y avait du jazz, j'aime bien du reggae, j'aime bien toutes ces choses-là. Et puis, j'aime le petit opéra, ça, j'adore aussi.
Voilà, voilà, ça, c'est chez moi.
Donc, j'ai rencontré Abby Field en regardant sur Internet. Je suis venue, donc, première visite avec la présidente. On raconte sa petite histoire, pourquoi, ainsi, pourquoi vivre ensemble, bon. Puis après ça, c'est une autre visite. Chez une, je ne crois pas qu'elle soit psychologue, mais bon, c'est elle qui va au fond des choses, qui veut savoir l'histoire. Après ça, on passe chez le médecin. Puis après le médecin, l'assistante sociale. Et puis chez chacun des habitants. Et puis tous les habitants ensemble. Et alors, il y a une décision qui se prend. Donc ça dure à peu près 4 mois. Je ne regrette pas du tout d'être ici. Je me trouve très bien ici. Bon, il y a parfois des sauts d'humeur comme partout, hein. C'est pas toujours, très, très, très droit. Il y a toujours quelqu'un dans la maison. On peut toujours aller parler. On peut échanger. On a envie de parler à quelqu'un. Bon, ben on sonne, je viens quelques minutes, c'est OK, quoi. Il y a l'aide aussi qu'on porte à l'autre, hein, qui est quand même importante.
On cuisine à tour de rôle, une fois sur trois, en fait, on cuisine. Et donc, aujourd'hui, c'est mon tour. Il y a une soupe verte à base de brocoli et de courgettes. Et puis, un waterzooi à la gantoise et de la glace pour comme dessert. Parfois, quelqu'un a une anecdote amusante à raconter, quelque chose qui lui est arrivé. Ou alors, on discute sur les nouvelles du jour. Mais c'est un reflet de la société aussi. Hein. Entre autres, Strauss-Kahn.
Il a des sous et tout, pardonné.
Si on en parle, c'est parce que ça intéresse les gens.
Oui.
Ce qu'il faut voir, c'est que si ça n'avait pas été découvert...
Ça continuera, mais ça continuera quand même.
France, c'est le président de la France, clairement, oui. Avec tous ses défauts et toute sa vulgarité. Et on n'aurait pas su.
Par rapport à l'autre. Je ne sais pas si c'est pur celui-là ou je ne sais pas.
On vit très bien sa vieillesse. On arrive à peu près une fois par semaine à shooter un peu, enfin comme ça, avec du champagne. Non, on vit bien et on se retrouve partout, on voit d'autres gens. Et voilà, je trouve que c'est bien.
Donc Alexandre, vous avez vécu cette immersion. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ?
Eh bien, c'était une expérience très intéressante. Le but était de rencontrer des personnes d'un certain âge dont le mode de vie méritait une attention particulière. Alors bien sûr, le mode de vie de ces habitants de la résidence entre voisins donc est atypique et donc intéressant. Mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment la personnalité de chacun des colocataires. J'ai donc eu l'opportunité de m'entretenir avec des personnes qui ont chacune une histoire à raconter. Parmi les personnes que vous avez entendues dans le reportage, Roger, donc le deuxième intervenant, était parachutiste à l'étranger et globetrotteur durant toute sa vie. Christiane, la troisième intervenante du reportage, est artiste peintre. Et enfin, Jacqueline, une habitante de la communauté qui n'est pas intervenue dans le reportage, est quant à elle partie en Afrique dans le cadre d'une mission catholique protestante. Donc tous les habitants ont vécu des choses qui façonnent leur caractère et donc in fine la vie de la maison. Les règles qui définissent la colocation, sont d'ailleurs fonction de la vie de ses habitants. Ils se réunissent de manière formelle lors de réunions mensuelles et plusieurs fois par semaine autour d'un repas.
Et vous nous parlez d'individus, d'individualité, mais vivre en communauté, ça nécessite une entente, évidemment. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au partage entre ces gens ?
Eh bien, les habitants de la résidence entre voisins sont venus chercher les mêmes choses dans leur maison communautaire. Donc, dans un premier temps, participer à un projet commun et jouir de leur indépendance sans se sentir seuls. Ils sont aussi contents et pour la plupart heureux de ne pas être à charge de leur famille et se sentent utiles au sein de leur communauté. Le projet semble fonctionner puisque même si tout n'est pas parfait, certains n'hésitent pas à parler de seconde famille et de nouvelle vie.
Est-ce que selon vous, on peut dire qu'il s'agit d'une vraie alternative en faisant...
Je ne sais pas si on peut parler d'alternative à proprement parler. Tous les habitants m'ont exprimé leur désir de rester le plus longtemps possible dans leur maison communautaire, mais ils n'excluent pas le home qui semble, au final, être une destination inévitable selon certains.
Grégoire, vous avez travaillé dans une maison de repos. Est-ce que selon vous, on peut parler d'une alternative ?
Mais donc, je pense que toute initiative comme celle-là est d'abord porteuse et qu'il faut la féliciter, si vous voulez. Mais les réalités, effectivement, en maison de repos sont un peu différentes. Donc, il y a quand même deux réalités qu'il faut connaître. C'est que malheureusement, on parle des gens qui sont en maison de repos, mais avant d'évoquer ça, rappelons que quand même 75% des personnes âgées vont vivre leur vie correctement, sans handicap et sans incapacité à domicile. Mais s'il faut revenir sur ces 25% qui peuvent traîner en maison de repos à un certain âge avancé, malheureusement, ils ne correspondent pas effectivement à ces caractéristiques que vous avez décrivées, que vous décrivez dans cette association. Puisque qu'est-ce que va-t-il se passer finalement quand l'une va avoir des problèmes de mobilité extrêmes ou l'autre va perdre la tête, ce qui finalement est les raisons principales de l'entrée en institution.
Et donc est-ce que la maison de repos est d'une certaine façon nécessaire après un certain âge ?
Mais oui, il faut le dire comme ça, parce que donc ça doit rentrer dans un consensus beaucoup plus large, à savoir, et on l'évoquera plus tard, mais comment interpréter, comment imaginer, si vous voulez, un autre type de vieillissement. Mais à l'heure actuelle, il faut quand même rappeler que ces institutions, bien qu'elles sont décriées, rendent avant tout un grand service à la société et qu'elles acceptent des gens que finalement, rester en maison de repos est devenu impossible, rester à domicile est devenu impossible.
Mais pour beaucoup de personnes, la maison de repos, bon, disons-le comme ça, c'est un mouroir. Comment est-ce qu'on pourrait changer cette vision de cette institution ?
C'est exact. Et donc, il y a eu trois axes, si vous voulez, qui ont été imaginés par un collectif dont faisait partie, par exemple, Madame Charlot, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et c'était imaginer la maison du 21e siècle à l'époque. Mais ça repose sur trois grands points. Le premier, c'est que quand on est à la maison, on peut choisir. On a ce qu'on appelle l'autodétermination. Donc on peut choisir, si vous voulez, le moment de se lever. On peut choisir le moment de ce qu'on va manger. On peut choisir si on veut s'habiller de telle façon. Et malheureusement, cette question d'autodétermination, elle a été occultée dans les maisons de repos. Donc on fait trop souvent à la place d'eux. Et donc, si vous voulez, ça va être les infirmières qui vont dire, ben voilà, c'est le jour du bain, voilà ce que vous allez manger, etc. Et pourtant, il y a des concepts très simples qui permettrait de laisser plus de choix dans cette détermination et qui serait économiquement viable, comme par exemple mettre des buffets à la place de ces restaurants qui permettraient de nouveau le choix dans l'alimentation des personnes âgées. Je vais aller vite, mais donc les deux autres points, les deux autres axes qui doivent être réfléchis pour faire évoluer les maisons de repos sont sur le plan architectural. Et donc sur le plan architectural, malheureusement, c'est un milieu qui vient du sanitaire et donc on a imaginé, on conçoit encore les maisons de repos actuellement comme ça, comme du balatome, etc. Alors que finalement, à l'heure actuelle, on peut très bien faire des éclairages indirects, des tables agréables, du tapis plein. Et tout ça, sur le plan hygiénique, tient la route avec des utilisations comme des aspirateurs modernes. C'est tout à fait envisageable et ça apporte beaucoup plus de qualité. Et le troisième point, qui semble important pour faire évoluer les maisons de repos, c'est que finalement, on les conçoit comme des entités à part, c'est-à-dire qu'on les exclut un petit peu de la société. Donc on les met dans des zonings, par exemple, des choses comme ça, alors que finalement, il faut ouvrir la maison de repos. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, d'imaginer un service de nettoyage, un service de coiffure dans la maison de repos, pourquoi ne pas donner la chance à ces personnes d'aller chez le coiffeur, comme ils le faisaient avant, par exemple, ou une petite pièce où ils peuvent recevoir leur famille, une petite pièce où ils peuvent cuisiner avec leur famille, toute une série d'aménagements comme ça qui peuvent être pensés.
Madame Maskens, selon vous, est-ce que la vieillesse est nécessairement synonyme de maison de repos ? Et est-ce que vous l'envisagez pour vous, pour le futur ?
Je l'envisageais pour un futur pas encore tout à fait proche, mais ce sont mes petits-enfants qui m'interdisent d'y aller. Donc c'est bien la preuve que l'image de la maison de repos n'est pas nécessairement bien vue, notamment à votre génération. Mais j'ai oublié votre prénom.
Grégoire.
Grégoire. Grégoire, ce que vous venez de dire me touche parce que vous ne parlez pas de ce que l'on vit à l'intérieur au moment où on parle de ces maisons de repos. Et je me dis que si je me trouve avec toutes ces personnes âgées, mes souffrances ou mes difficultés vont être alourdies par celles des autres. Et c'est ce être ensemble, mais isolé des autres âges de notre société qui me serait souffrant. Donc, je préférerais les maisons, des maisons où je sois en contact avec des plus jeunes, avec des enfants. Donc, on appelle ça les maisons intergénérationnelles. Ça me semble mieux que, psychologiquement, donc, que les maisons de repos qui rassemblent ces personnes. Et ça peut être bon dans l'échange, mais il y a un manque de contact alors avec les autres générations. Il y a comme une coupure avec la société.
Effectivement, dans la maison Abbey Field que j'ai été visiter dans le cadre de mon reportage, il y avait effectivement différentes, si pas différentes générations, mais en tout cas différents âges. Ça allait de 70 à 90 ans, donc il y avait effectivement...
Différences, mais encore en dehors de la société. J'ai entendu parler de maisons au Danemark, où il y a et des générations, les grands-mères, les grands-pères, et puis la génération dans les 40, et puis il y a des enfants, des bébés. C'est vraiment beaucoup plus vivant et intéressant.
Mais pour ce genre de résidence, il y a tout de même beaucoup d'avantages. Une solidarité entre les personnes âgées, une vie commune,
oui.
Ne pas rester seul.
Oui.
Mais est-ce que vous pouvez imaginer des inconvénients ?
Le seul inconvénient que je vois serait la sensation des personnes âgées de peser sur les plus jeunes. C'est une sensation qu'on a assez rapidement. Et quand moi j'ai pu avoir des enfants, j'ai eu des enfants, des petits-enfants, je les aime. Et si je ne leur parle pas, si je ne suis pas dans une bonne communication, c'est souvent pour les protéger. Je n'ai pas envie de peser. Ce qui est mauvais d'allure pour la communication.
Grégoire, à partir du moment où une personne âgée est contrainte d'entrer dans une maison de repos, on peut presque parler d'une sorte, pas vraiment hospitalisation, mais bon, voilà, c'est une nécessité. Est-ce qu'il y a, pour cette personne âgée, un impact psychologique par rapport au fait d'entrer dans une telle institution ?
Oui, certainement psychologique et même plus... Donc, effectivement, vous l'avez bien souligné, ils y viennent un petit peu contraints et forcés, certainement, enfin, peu souvent, finalement, par choix, et que donc son impact psychologique est présent. Cela étant aussi, ils perdent plus que ça, puisque dans le fond, ils perdent aussi toute leur structuration. Donc, quand on y rentre en maison de repos, c'est aussi dans 60-80% des cas, parce qu'on a un petit peu des troubles cognitifs, on perd un petit peu la tête, et on sait qu'à la maison... l'environnement est très structurant. Quand on sait où est son tiroir, où est sa toilette, que le fonctionnement de son four à micro-ondes, ce sont des éléments structurants que l'on va perdre dans l'entrée en maison de repos. Ce qui veut bien dire, c'est que donc on a non seulement ce stress psychologique que vous avez évoqué, mais en plus on perd finalement sa structuration que crée l'environnement, et donc on va moins bien quand on rentre en maison de repos. Après, un certain temps, on observe parfois une acclimatation, mais elle n'est pas donnée à tout le monde.
Merci beaucoup. Passons maintenant à un petit moment de détente avec notre moment culturel. Donc, dans les films, les livres, la musique et bien d'autres, on retrouve toujours des références aux phénomènes de société auxquels on est quotidiennement confronté. Ce moment culturel a justement pour but de prendre un exemple pour le confronter au sujet du jour. Aujourd'hui, le thème est le vieillissement et c'est avec vous, Anémone, qu'on en parle.
Bonjour, et aujourd'hui nous allons démarrer cette séquence par un film français sorti en 2012. Il s'agit de « Et si on vivait tous ensemble », réalisé par Stéphane Roblin. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de sa bande-annonce.
On devrait penser sérieusement à cette histoire de vie en communauté.
C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté.
Non mais ça va pas, tu te prends pour un hippie ou quoi ?
Quand j'ai senti mes copains en difficulté, j'ai cherché des solutions.
Il y a des vieux ici.
Bande de vieux cons !
Parce que j'aime les corvées, je propose qu'on fasse des équipes de deux.
On est cinq. C'est pas pratique de faire des équipes de deux.
Son directeur de thèse lui a dit que notre communauté était tendance.
Ce qui l'intéresse, c'est comment on va vivre. Nos activités ménagères, culturelles, sexuelles aussi.
Si tu
as peur que tes petits-enfants ne t'aiment plus, fais construire une piscine et tu vas voir comme ils t'aiment.
Ah, pas une piscine!
Moi vivant, il n'en est pas question.
On est prévoyant pour tout, mais on ne se préoccupe pas du tout de ce qu'on va faire de nos dernières années.
Ils vous en font pas trop voir, tous ces vieux?
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Le barode.
Ils sont pas si vieux que ça.
Vous êtes complètement cons! Parlez pas des anges, merde!
Alors, dans ce film, on retrouve entre autres Guy Bedos, Jane Fonda et Pierre Richard qui incarnent des personnages extrêmement attachants. Pour l'histoire, vous l'aurez compris, il s'agit d'une bande de vieux copains qui décident d'habiter ensemble. Ils vont se serrer les coudes pour affronter la vieillesse et surtout éviter à l'un d'entre eux la maison de repos. On y retrouve toute une série de thèmes propres aux aînés comme la maladie, la fin de vie, les petits-enfants qui se désintéressent de leurs grands-parents, etc. Mais aussi, et c'est là que le film est intéressant, le désir et la sexualité. En somme, il nous rappelle habilement que les seniors sont avant tout des hommes et des femmes comme les autres. On aborde donc la vieillesse sans tabou, avec ses bons et ses mauvais côtés, ce qui rend le film très humain finalement. Et si on vivait tous ensemble n'est pas le seul film qui s'attache à dépeindre une vieillesse loin des tatis Daniel. Dans le film d'animation Up, là-haut en français, sorti en 2009, le vieux Carl décide de s'envoler loin de la maison de retraite qui l'attend et de rejoindre les chutes du paradis. Par erreur, il embarque le petit Russell avec lui, un enfant qui va lui faire connaître une deuxième jeunesse et avec qui il va nouer une belle complicité. On est en plein dans l'intergénérationnel dont on a parlé et dont on reparlera plus tard dans cette émission. Cela dit, les personnes âgées n'ont pas toujours été vues de façon aussi positive et on continue encore aujourd'hui de cultiver cette vision du vieux défraîchi. Mais arrêtons-nous donc une seconde pour y réfléchir. Nous sommes tous ici, les vieux de demain. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse sur une chanson de François Béranger, interprétée par Saint-Séverino, et Jeanne Chéral. Elle s'appelle « Le vieux », tout simplement.
Combien d'entre nous ont vu le vieux qui passe dans la rue, épouvantail tout gris, que la cité a exclu.
Les rues, les gens et le monde vont bien trop vite pour lui. Dans ses yeux absents d'enfant, on ne passe que l'effroi du temps.
Pour descendre et remonter 6 étages d'escalier, il faut l'éternité.
Quelle faute a-t-il pu commettre le vieux tout gris qui traîne ses vieux membres rassis?
Combien d'entre nous ont fait quoi que ce soit de palpable, un geste, un mot, un sourire, pour le raccrocher à nous? La vieillesse nous fait frémir. On ne veut pas croire au pire. Nos yeux ne retiennent d'elle qu'une image irréelle.
Mon vieux à moi, tous les mois, va à tout petit pas empocher sa pension. Il se ménage au retour un détour insolite chez le glacier du coin. Quand je serai vieux et tout seul, demain ou après-demain, je voudrais comme celui-là, au moins une fois par mois.
Avec mes sous, si j'en ai, m'acheter une glace à 2 boules et rêver sur leur saveur à un monde rempli d'enfants.
Mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé en s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre à refaire le présent.
Donne à ceux qui sourient, et combien droit de sourire. Rendez-vous dans 20-30 ans pour reparler du bon temps.
Mais peut-être que pour nous, nous les vieux de demain, la vie aura changé. En s'y prenant maintenant, nous-mêmes et sans attendre, à refaire le présent.
C'était Le Vieux, interprété par San Severino et Jeanne Chéral. Vous écoutez Le Bénéfice du Doute sur Radio Campus. Le thème d'aujourd'hui est l'intégration des personnes âgées dans la société. Avec nous en plateau, Colette Maskens, qui a écrit un livre sur le vieillissement, et Grégoire Carlier, pardon, ergothérapeute, qui travaille dans le service gériatrie à l'hôpital Erasme. Passons maintenant à notre prochaine rubrique Et ailleurs, avec toujours vous, Anémone.
Bon, c'est pas grave pour le jingle, vous l'entendrez pour la prochaine émission. Donc pour cette rubrique, nous allons tout d'abord partir dans les pays arabes, au cœur du monde musulman. Là-bas, selon les préceptes de l'islam, la famille occupe une place prépondérante et il existe des règles à suivre. Les parents se chargent d'élever et d'éduquer leurs enfants et en retour, ces enfants, devenus adultes, doivent offrir protection et assistance à leurs parents dans leurs vieux jours. On est vraiment dans une optique de donnant-donnant. Concrètement, les grands-parents habitent donc le plus souvent avec leur descendance qui se charge de subvenir à leurs besoins. Toutes les générations se côtoient donc au sein d'un même foyer. De ce fait, on estime que moins de 10% des seniors vivent seuls dans les pays arabes, contre 26% en Europe et en Amérique du Nord. Comme on le verra dans le reportage de Lisa, cette situation de cohabitation comporte de nombreux avantages pour la famille. Tant que leur santé le leur permet, les aînés participent notamment aux tâches ménagères et contribuent à l'éducation des plus jeunes. Ils conservent donc un statut de membre à part entière au sein de la famille. Une fois que leur santé décline, ils n'en deviennent pas un fardeau pour autant, puisque leur progéniture considère qu'il s'agit simplement d'une évolution naturelle de la vie familiale. Et ça va même au-delà, puisque les enfants sont véritablement heureux de s'occuper de leurs aînés. Pour eux, c'est un devoir qu'ils accomplissent pour leur famille, mais aussi pour Dieu. Pour toutes ces raisons, on trouve très peu d'institutions spécialisées pour les personnes âgées dans les pays arabes. Et quand elles existent, il s'agit généralement du dernier recours pour les familles.
Mais ce respect et cette volonté de s'occuper des aînés, on la retrouve également dans d'autres sociétés.
Tout à fait. C'est notamment le cas en Asie, où l'enseignement de Confucius exerce encore une grande influence, et plus particulièrement en Corée du Sud. Dans ce pays, on accorde une énorme place à ce qu'on appelle la piété filiale, c'est-à-dire la gratitude que les enfants doivent témoigner envers leurs parents. Alors, comment ça se passe là-bas? Eh bien, les parents cherchent à offrir à leurs enfants le meilleur avenir possible, grâce à une bonne éducation. Il s'agit en quelque sorte d'un investissement à long terme. Ils espèrent ainsi s'assurer une retraite paisible et obtenir de l'aide de leurs enfants quand ils en auront besoin. Là aussi, on retrouve la logique du donnant-donnant, mais les seniors coréens cherchent tout de même à rester indépendants le plus longtemps possible. Au-delà de la famille, c'est toute la société qui doit respect aux aînés. Ça se manifeste par exemple par des formules de politesse dans le discours, mais aussi par le fait de se lever quand un senior entre dans une pièce. On célèbre également leur grand âge. Le 60e, 70e et 80e anniversaire sont particulièrement importants pour les Coréens. Mais cette tradition de valorisation des aînés risque d'être mise à mal puisque la population vieillit très rapidement. On estime qu'en 2050, plus de 38% des Coréens seront âgés de 65 ans et plus, ce qui inquiète déjà les politiques sur place. Même inquiétude au Japon, où ils représenteront également près de 38%. Le défi de ces pays asiatiques sera donc de concilier la tradition avec la réalité des chiffres.
Si ces informations vous intéressent et que vous désirez en savoir plus, rendez-vous sur notre site web www.bénéficedudoute.ulb.ac.be. Merci beaucoup Anémone. Donc on vient de l'entendre, dans certaines cultures, il n'est pas rare que l'aîné vienne vivre dans sa famille. Mais en Belgique, c'est moins le cas et surtout de plus en plus rare. On fait de moins en moins d'enfants, moins de monde sur qui on peut compter et les familles sont plus éclatées géographiquement. Mais Lisa a quand même trouvé une famille à Anderlecht où trois générations cohabitent sous le même toit.
Voilà, c'est ma chambre. Je dors parfaitement bien, sans médicaments. Et ici... Bah, j'ai une salle de bain. Ça, c'est la cuisine. Vous voyez, c'est très bien. C'est impeccable, quoi. Pour moi, c'est super. Et le jardin, quand on vient longtemps, c'est magnifique, quoi.
Paya a emménagé dans la maison de sa fille Carmen il y a 12 ans. Auparavant, elle vivait seule et souffrait de graves vertiges. La situation était difficile à gérer pour toute la famille, comme l'explique Carmen.
Elle était connectée à télésecours. Donc télésecours, c'est une petite machine qu'on met autour du cou de la personne âgée. Donc quand la personne âgée a un malaise ou quoi que ce soit, elle appuie sur le bouton. Le problème, c'est que ça générait un stress terrible au niveau familial. On pouvait nous appeler en journée, en soirée, peu importe. Et mon mari a proposé de faire un appartement dans la maison.
12 ans après, le bilan est très positif. La santé de Paya s'est améliorée et ce n'est pas le seul avantage.
Pour mes enfants, ils ont vraiment une grand-mère présente. C'était vraiment gai parce qu'on est vraiment dans l'intergénérationnel. Pour moi, c'était beaucoup plus de soulagement aussi parce que quand elle va pas bien, je sais qu'on est là et qu'on peut assurer une présence, que ce soit moi ou mes enfants ou mon mari, on peut faire une tournante.
Carmen recommande donc la cohabitation, mais son mari Nicolas émet tout de même quelques conditions.
Évidemment, le rythme de vie d'une personne âgée n'est pas du tout le même rythme de vie que de personnes qui sont actives. Et de ce fait-là, pour éviter toutes les frictions, chacun vit dans son environnement, chacun vit à son rythme. Il est clair que c'est envisageable avec des personnes âgées qui ont une autonomie véritable.
Cette autonomie, Paya espère la conserver le plus longtemps possible et ainsi échapper à la maison de repos.
Ce que je vis et ce que j'entends à la télévision, je dis, oh mon Dieu, non, je ne voulais pas. Peut-être qu'il sait un jour. Mais si je vis à la maison de repos, pour moi, sera la fin de tout. La fin de tout. Dans ce moment-là, bon, je préfère aller au paradis. Voilà.
Lisa, vous êtes avec nous. On vient de l'entendre dans le reportage. Ça n'a pas été très facile pour trouver une famille qui décide de vivre avec son aîné.
Oui, c'est vrai. Visiblement, la cohabitation entre générations, elle n'attire pas. Pourtant, moi, personnellement, ce que je retire de ma rencontre avec Paya et sa famille, ce sont vraiment les nombreux avantages. Et donc, je voudrais demander à nos invités, et Colette Maskens, vous avez déjà abordé l'importance des relations entre générations. Mais je me demande si aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un manque de solidarité entre les générations, justement ?
Oui, je pense que nous avons un vrai grand problème dans la communication. Je pense qu'il y a des images statiques dans l'esprit des gens, des jeunes vers les personnes âgées et des personnes âgées vers les jeunes. Si nous faisons l'expérience de fermer les yeux, d'imaginer que devant nous, nous nous promenons dans un parc, il y a une personne qui pousse une autre personne dans un fauteuil, roulant, nous allons avoir une image de cette personne. Et si, en la dépassant, par exemple, nous nous retournons et nous rencontrons, nous réalisons que c'est un vieux professeur, tout de suite, l'image va changer. Et derrière cette personne, il y aura toute une histoire. Je pense qu'il faut que nous ayons conscience de cela. Nous nous regardons sans connaître l'histoire de l'autre. Il faudrait avoir un esprit très ouvert, en attente de l'histoire pour mieux communiquer. Et la conscience que nous communiquons très mal est le premier pas vers une bonne communication.
Et vous, Monsieur Carlier, je suppose aussi que dans vos rencontres avec les personnes âgées, est-ce qu'il y a des personnes qui témoignent d'une inquiétude par rapport à leurs enfants ? Enfin voilà, est-ce qu'ils se sentent un peu délaissés par leur famille ?
Oui, très souvent. Et puis d'un autre côté, ils ne veulent pas non plus influencer la propre existence de leurs enfants. Et donc, c'est l'essentiel du débat, finalement. C'est comment mieux intégrer l'expérience de nos aînés dans nos sociétés. Et donc, il est vrai qu'on a construit une société, finalement, un petit peu en trois phases, où on a le moment d'apprendre pour les enfants, le moment de fournir pour les actifs, et puis quand on est pensionné, on dit que c'est le moment de profiter, et en fin de compte, on voit qu'à la fin, en tout cas d'un certain profit, ça tourne un petit peu en rond, et qu'ils sont parfois en manque par rapport à comment mieux faire passer cette expérience dans la société. Et donc on voit qu'effectivement, la société ne s'est pas du tout adaptée à ça. Si vous percevez, par exemple, pour les personnes en bas âge, on offre la possibilité d'avoir des congés parentaux, on offre de pouvoir rester à la maison quand ils sont malades, etc. Peut-être pas assez suffisamment, mais finalement, à l'inverse, on n'offre absolument rien pour les enfants à essayer de maintenir leurs enfants, par exemple, à la maison, ou essayer de mieux s'en occuper.
Mais est-ce que notre génération à nous n'a pas une vision négative des personnes âgées? Est-ce qu'on n'a pas été impacté par toutes ces discussions autour des maladies liées au vieillissement?
Donc il y a une littérature abondante là-dessus, et donc il s'agit de l'âgisme. L'âgisme, c'est le premier racisme par rapport aux personnes âgées, et c'est le racisme le plus important avant même d'autres cultures, d'autres ethnies. Et donc c'est très insidieux, ça commence parce qu'on rouspète parce qu'une personne âgée fait des courses le samedi dans la file, quand on voit quelqu'un en voiture qui roule lentement, si elle a beau être âgée, ça va nous énerver. Et le problème effectivement, c'est que ces personnes âgées qui ne sont pas insensibles vont comme à un moment percevoir ce jugement que l'on porte, et donc elles vont intégrer ce jugement et ça va avoir un impact sur leur propre performance. Et tout ça est encore relativement discutable, mais c'est surtout inquiétant quand on commence, par exemple, à refuser du crédit pour les personnes âgées, quand on commence à interdire aux personnes âgées de conduire en voiture, parce que finalement, là, on crée vraiment une classe à part et qui est stigmatisée. Et donc là, c'est de nouveau l'essentiel du débat, c'est comment inverser les choses. Voilà.
Colette, est-ce que vous avez déjà été victime de ce que vient de raconter Grégoire ?
Oui, une fois ou l'autre, en effet. Notamment à un moment donné où je faisais des courses, j'achetais je ne sais plus très bien quoi, un petit appareil ménager. Et oui, c'était une balance. Et au moment de la personne la sort ou la remet dans la boîte, je lui dis qu'elle est mal équilibrée, j'avais vu ça, et que j'en désire une autre. Alors j'ai vraiment eu un comportement très négatif de cette personne. J'ai dû être très ferme pour dire, c'est comme ça, je le veux. J'étais manifestement la petite vieille enquiquinante du coin. Et donc...
Et comment est-ce que vous l'avez... Comment est-ce que vous l'avez vécu après ça?
Ça dépend de la philosophie de chaque personne âgée. Moi, je ne m'en fais pas pour ça. Mais j'ai senti j'aurais pu être très blessée. Mais je ne me suis pas laissée être blessée.
Sur Twitter, on a une internaute qui s'appelle Lise qui nous demande comment on pourrait justement appréhender la vieillesse en Occident comparée à l'Afrique et à l'Asie où les familles s'occupent des personnes âgées.
Alors, je pense qu'il faut des modifications, mais la première chose que j'aimerais beaucoup, c'est que l'on soit totalement attentif, je dirais, au fait que ces personnes ont vécu et ont toute une histoire. Et ne pas les traiter comme objets, pas comme ces personnes sans image. Donc, je découvre souvent, quand je rencontre une personne, qu'elle a une image fermé, et dès que je parle, voilà, ça change tout. Et j'ai eu en effet, je vous le dis très rapidement, auprès de moi, à un mariage, une personne qui m'a parlé de yoga pendant une demi-heure, sans que je ne puisse dire un seul mot. Et à la fin, ça m'a énervé. Je lui ai dit, écoutez, je suis professeur de yoga depuis 30 ans, ça va, j'ai compris, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose ?
Mais du coup, est-ce que voilà l'importance justement de parler positivement de la vieillesse, c'est aussi important dans la façon dont vous allez aussi appréhender votre vieillesse. Est-ce que voilà justement dans ces discours assez négatifs qu'on a ici, est-ce que ça vous prive pas vous-même de voir votre vieillesse de façon positive? Je pense que ça demande une certaine force mentale d'aller voir le positif. Quoi.
Oui et non, parce que cela nous oblige, cela m'a obligée à me poser des questions sur cet âge-là et à ce que j'allais faire pour rester en forme. Notamment, je suis tout à fait contre tout ce qui nous est dit dans la culture de « il faut rester jeune, restons jeunes » et tout ça. Quand le corps lâche et que l'on entend « vous devez rester jeune », c'est très négatif. Car c'est une illusion, c'est faux. Mais si on parle de jeunesse du cœur et jeunesse de l'esprit, alors je suis d'accord, il y a beaucoup à faire pour rester jeune, rester de cœur avec vous. Par exemple, je gère très très bien l'ordinateur, le Word et tout ça. Ne pas reculer devant tout ce que je peux encore apprendre.
On va peut-être terminer par cela. Grégoire, est-ce que ça peut se prévoir? Est-ce que les personnes âgées ont l'impression d'avoir le choix dans la façon dont elles peuvent vieillir?
Mais donc, effectivement, on l'a évoqué avec, en étudiant ces centenaires, que finalement, on voit bien que le vieillissement se prépare. Hein, et donc, on a toutes sortes en nous, un capital osseux, on a un capital cérébral, etc. Et donc, plus on va avoir des comportements adaptés, plus on va se prémunir. Mais derrière ça, on vit dans un environnement, et l'environnement, faut-il le rappeler, est enfin en tout cas la culture, le culticisme du jeunisme actuellement, et que donc c'est cette image-là qu'il faudrait tout doucement essayer d'inverser. Si vous prenez l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure avec Walt Disney, avec Monsieur Up, là, qui est enfin un personnage, finalement, c'est le premier personnage de Walt Disney qui est rendu sympathique par Walt Disney. À l'inverse, quand on voit un petit peu qui étaient les vilaines sorcières et qui étaient les vilains méchants, c'était souvent des grands vieillards. Et donc, on peut commencer par illustrer une représentation plus positive des personnes âgées, et ça va avoir une influence, espérons-le, positive dans la société.
D'accord, merci beaucoup. Voilà qui marque la fin de notre émission. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, l'équipe du Bénéfice du Doute revient pour une nouvelle émission présentée par Sophie Diric. Alors de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ?
Eh bien Kéran, la semaine prochaine, nous débattrons d'un thème vieux comme le monde, la famille. Alors fonder une famille, avoir des enfants, pour la plupart c'est naturel. On demande rarement aux futurs parents, alors pourquoi au fait veux-tu des enfants ? Mais qu'en est-il de ceux qui font le choix de ne pas en avoir ? Égoïste, carriériste, aigri, voici un bel échantillon que peuvent entendre ces hommes et ces femmes qui ont fait un tel choix de vie. Le Bénéfice du Doute a décidé de leur donner la parole pour comprendre leur choix, mais aussi comprendre pourquoi la société les juge d'une telle manière. Si vous voulez réagir ou poser des questions sur ce thème, vous pouvez d'ores et déjà le faire via notre page Facebook et Twitter.
Super, le Bénéfice du Doute vous donne donc rendez-vous mardi prochain à 10h sur Radio Campus. D'ici là, portez-vous bien.
Que la bande de Gaza est un groupe de rock?
Tu crois que La Chute des Bourses est un nouveau film porno?
Tu crois que Paul Magnette se colle sur ton frigo? Pour tout savoir, 92.1
Radio Campus.